Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue, dur réveil pour certains. Au lendemain des élections fédérales canadiennes, le paysage politique du pays a changé. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, est défait dans sa propre circonscription. Jagmeet Singh, du NPD aussi, ce dernier a déjà remis sa démission. Le chef du Parti libéral, Mark Carney, est tout sourire, lui qui a même flirté avec la majorité. Nos journalistes recueillent les premières réactions à Québec. Le député fédéral et ex-ministre Jean-Yves Duclos obtient un quatrième mandat.
On sait que pour avoir un Québec fort, ça prend un Canada fort. Et ça, j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence.
Ailleurs en Ontario, ça bardait aussi. Guillermo Tolosa a mis des cure-dents entre ses paupières.
En fait, il y a vraiment deux priorités au niveau national qui sont les mêmes priorités en ce moment ici à Prescott, Russell-Cumberland, puis c'est les tarifs et l'abordabilité.
Au Manitoba, Ginette Lavac est élue députée de Saint-Boniface-Saint-Vital.
C'est un travail d'équipe incroyable. J'étais appuyée par des gens qui sont donnés vraiment à tout cœur.
Durant cette campagne, les partis politiques fédéraux ont investi des sommes considérables dans les médias sociaux, y compris chez Meta, qui pourtant boycotte les médias d'information canadiens. Les radiodiffuseurs communautaires du pays se demandent bien pourquoi.
Meta, en particulier, n'a fait aucun geste pour améliorer la situation des médias au Canada.
Ceci et plus encore à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure avec quasiment toute l'équipe de l'IGL. Eh bien, quelle campagne électorale nous avons eue et qui s'est décidée sur le fil. Les provinces de l'Atlantique ont lancé le bal le 28 avril. Au sortir d'une campagne fédérale express, le Parti libéral a finalement remporté plus de sièges que lors de son dernier mandat, mais il demeure néanmoins minoritaire. Les provinces maritimes ont été les premières à voter et elles ont en partie viré au bleu lundi soir. Mais pas assez. Même si les libéraux ont fait moins bien qu'anticipé, ils ont tout de même raflé une majorité de sièges dans l'est du pays, mais aussi peut-être perdu là-bas la majorité qu'ils espéraient à la Chambre des communes avec 169 des 172 sièges nécessaires pour l'atteindre. Au Nouveau-Brunswick, certains des résultats ne sont tombés que très tard dans certaines circonscriptions et même le lendemain, comme un peu partout à travers le pays, on en attendait encore un peu. La lutte était très serrée dans Miramichi-Grand Lake. Le conservateur Mike Dawson tentait de conserver son siège face à la libérale Lisa Harris. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Au final, la circonscription est restée bleue, confirmée à 16 heures le lendemain du vote. Toujours au Nouveau-Brunswick, le libéral Guillaume Deschênes-Thériault a été élu dans la circonscription du Madawaska-Restigouche. M. Deschênes-Thériault a remporté son siège avec 55% des voix, devançant son adversaire conservateur Michel Morin. Nancy Mercier du PCC et Daisy Peterson du NPD ont terminé loin derrière. M. Deschênes-Thériault succède ainsi à René Arsenault qui a pris sa retraite du monde politique après une carrière de 10 ans. Deux de nos journalistes lui ont parlé. Ici Michael Robitaille à Edmundston.
Les électeurs du comté Madawaska-Restigouche ont parlé. Ils ont voté pour le candidat libéral Guillaume Deschênes-Thériault. Il succède donc à René Arsenault, qui a quitté la vie politique après 10 ans en poste en tant que député libéral. Nous le recevons ce matin. Monsieur Deschênes, tout d'abord, comment vous vous sentez ce matin en tant que nouveau député de la circonscription?
Bien, en fait, c'est des grands moments de joie. Hier soir, il y avait une fébrilité dans l'air parce qu'une campagne électorale, c'est des semaines, des mois de travail. Et on a vu hier que les résultats ont porté fruit. C'est aussi un sentiment particulier de savoir que les gens de chez nous m'ont accordé leur confiance. Donc, finalement, on a fini la soirée avec 55% des voix versus 39% pour le Parti conservateur. 6500 voix d'avance, c'est un résultat, je pense, une victoire qui est quand même décisive. 55% aussi pour le Madawaska-Restigouche. En fait, ça représente le sommet dans les 30 dernières années. Si on regarde, M. Arsenault, en 2021 et en 2015, avait aussi eu 55% des voix chez nous dans le Madawaska-Restigouche. Donc, on peut parler d'une belle victoire hier soir pour les libéraux. Et si on s'était dit, il y a quelques mois seulement, imaginez, les libéraux vont avoir un quatrième mandat en 2025, bien, ça aurait été difficile à le croire. Parce que, regarde, moi, j'ai annoncé mon intention de me présenter candidat libéral. C'était l'automne dernier. On était au plus bas dans les sondages. Donc, il y a vraiment eu un renversement dans les dernières semaines, les derniers mois. Ça joue notamment avec l'arrivée de M. Carney à la tête du Parti libéral. Je crois que les gens ont vu en M. Carney un leader d'expérience, quelqu'un qui avait la capacité et les compétences pour gérer le Canada dans ces temps d'incertitude économique, qui avait aussi la bonne approche pour négocier ou défendre le Canada sur la scène internationale ou travailler avec d'autres leaders à l'étranger pour développer des nouveaux marchés. Donc, je crois vraiment que les gens ont apprécié cette approche-là, le plan libéral sous le leadership de Mark Carney, et ça s'est démontré dans les urnes hier soir, donc avec, pour le moment, on est à 43,5% des voix à l'échelle pancanadienne.
Le libéral Guillaume Deschênes-Thériault affirme vouloir travailler au développement économique du Madawaska-Restigouche, régler les problèmes liés au logement, attirer et retenir les jeunes et améliorer les services de proximité, il va miser sur une approche ouverte et moderne, tout en restant à l'écoute des électeurs qui ont exprimé des attentes élevées durant cette élection. De Kedgwick au Nouveau-Brunswick, Sébastien Ladouceur couvre lui aussi cette vaste circonscription. Le voici en compagnie de Guillaume Deschênes-Thériault.
C'est certain que ça va être la question du logement, donc ça c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup, et je compte continuer à travailler avec les parties prenantes dans les communautés et en même temps à Ottawa pour s'assurer que les investissements en logement, on puisse avoir notre part dans le Madawaska-Restigouche. Au courant des prochaines semaines, c'est sûr, là, tout de suite, j'ai été élu hier soir, mais je suis pas encore assermenté. Ça va prendre quelques semaines avant d'avoir mes séances d'orientation comme nouvel élu, puis d'être officiellement assermenté. C'est à partir de ce moment-là que je pourrai ouvrir des bureaux, embaucher une équipe et tout ça, et avoir un bureau fonctionnel. Donc là, il y a quand même quelques semaines de transition qui se font. Mais une fois que ça va être fait, je veux retourner voir les conseils municipaux, aller voir les parties prenantes pour vraiment faire le point sur qu'est-ce qui sont sur leurs dossiers prioritaires, qu'est-ce qui sont les projets les plus importants pour eux à Ottawa et comment je peux aider. Donc, j'ai mes deux dossiers, la question du logement et la question aussi des différents projets en cours dans nos municipalités. Comment est-ce que je peux aider à faire avancer ces dossiers-là? Moi, mon travail, c'est représenter la population du Madawaska-Restigouche. Mais à Ottawa, ça change les dynamiques. La population a décidé de confier un nouveau mandat au gouvernement libéral, mais en même temps, la population a aussi décidé d'envoyer un parlement minoritaire à Ottawa. Donc, dans ce cas-là, ça va amener à qu'il y ait des négociations avec les différents partis. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux partis avec lesquels on peut collaborer au cas par cas quand on a des mesures législatives à faire adopter. Et je dirais que c'est quand même bien que ce soit pas juste un seul parti qui ait toute la balance du pouvoir, parce que ça permet de faire des négociations plus nuancées et de bonne foi. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que va être ce travail-là. Et depuis 2019, on a des gouvernements minoritaires à Ottawa et ça se passe bien. Donc on va pouvoir continuer de travailler ensemble en différentes formations politiques pour faire avancer les mesures législatives.
Sébastien Ladouceur, Kedgwick IGL.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Dans la région de Québec, les libéraux ont raflé quelques sièges aux dépens du Bloc québécois. Le député libéral et ex-ministre Jean-Yves Duclos a conservé son siège pour une quatrième fois avec une large avance, tout comme le député Joël Lightbound dans Louis-Hébert. Le libéral et ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Steve Lavoie, a de son côté ravi la circonscription de Beauport-Limoilou à la bloquiste Julie Vignola. Et du côté de Montmorency-Charlevoix, le conservateur Gabriel Hardy a effectué une surprenante remontée pour l'emporter sur la députée sortante bloquiste Caroline Desbiens, qui, à un moment, avait même été déclarée vainqueur. Alice Zanetta a veillé tard pour nous ramener ce qui suit.
Lundi soir, le cœur est à la fête chez les militants du Parti libéral. Jean-Yves Duclos, député libéral depuis 2015 dans Québec Centre, est largement réélu pour un quatrième mandat à Ottawa.
Le pont Québec, le tramway, le chantier des villes, le logement, tous les investissements pour nos organismes communautaires qui en arrachent là, dans la base ville que j'ai la chance de représenter aussi. Donc on a fait beaucoup de belles choses économiquement et socialement, puis là, ça me donne la perspective de pouvoir en faire encore davantage avec les gens de la région.
Jean-Yves Duclos ne croit pas que l'absence d'un adversaire conservateur dans Québec Centre a eu un effet sur sa réélection. On le rappelle que c'est la seule des 343 circonscriptions qui n'a pas eu de représentation conservatrice. M. Duclos croit plutôt que ce sont les menaces tarifaires du président des États-Unis qui ont pesé dans la balance de sa réélection.
Il y a très peu de gens qui m'ont parlé de l'absence d'un candidat conservateur dans les dernières semaines. Les gens m'ont beaucoup parlé, par contre, de l'importance que la région de la capitale nationale soit forte pour qu'on ait un Canada fort. C'est beaucoup de sentiments d'insécurité, de stress pour les travailleurs et les entreprises. Les gens qui ont un peu d'épargne pour leur retraite s'inquiètent aussi. On sait que pour avoir un Québec fort, ça prend un Canada fort. Et ça, j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines. Et je pense que c'est ce qui fait la différence.
À l'échelle nationale, le Parti libéral du Canada, mené par Mark Carney, formera un gouvernement minoritaire, selon les prévisions, tôt mardi matin. Une bonne nouvelle pour le militant libéral et bénévole sur la campagne de Jean-Yves Duclos, Claude Junior Charles.
Ah ben, je suis plus que content, là. Je suis plus que content. Il n'y a pas une meilleure personne que Mark Carney pour diriger le Canada aujourd'hui face à tout ce qui se passe actuellement à travers le monde.
Dans la région de Québec, qui reste à majorité conservatrice, c'est un coup dur pour le Bloc québécois. Le parti perd ses deux circonscriptions de Beauport-Limoilou et Montmorency-Charlevoix, respectivement pour le libéral Steve Lavoie et le conservateur Gabriel Hardy. Au début de la soirée électorale, les partisans et bénévoles du Bloc, comme Victor Dubuc, sont restés fiers de leur campagne.
Depuis le début de la campagne, on a vraiment beaucoup de militants qui se démènent. Peu importe ce qui va arriver ce soir, on aura tout donné.
À la dissolution du Parlement, en mars dernier, le Parti libéral formait un gouvernement minoritaire. Lundi soir, le Parti libéral et le Parti conservateur ont fait des gains au détriment du nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Bonjour, ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca.
Du côté de la ville minière de Fermont, au Québec, le Bloc québécois est demeuré imperturbable dans la circonscription de Côte-Nord, Kawawaki, Kamash, Nitassinan. La députée Marie-Hélène Gill du Bloc québécois a été réélue et dit souhaiter que les travaux reprennent rapidement à la Chambre des communes. Élisabeth Séguin a recueilli ses commentaires.
On veut aider les gens pour ce qui est du logement, pour ce qui est du coût de la vie. Donc, j'espère que le Parlement va être appelé très rapidement pour qu'on puisse discuter, mettre en œuvre rapidement aussi des mesures pour la population. Donc, c'est ce que je souhaite. Bien sûr, M. Carney doit nommer ses ministres. Les députés doivent être assermentés à la Chambre des communes, mais quand même, ça peut être une affaire de peu de semaines si on en a la volonté pour qu'on puisse faire vraiment une session de travail importante et intéressante d'ici la fin juin, quitte à ce qu'on siège cet été. Il n'y a jamais ça. Ça, c'est jamais possible. C'est le gouvernement qui en décide. Parce que vraiment, depuis le mois d'octobre passé, ça a été bloqué complètement à la Chambre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, entre autres, qu'on ait eu une élection. Donc, il faut que ce soit rapide. On est prêt à travailler.
Bonjour, ici Robert Savard à Shawinigan, au Québec. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Ce sont bien les Maritimes et l'Ontario qui ont privé les libéraux d'une majorité au Parlement, mais la libérale Giovanna Mingarelli n'en est aucunement responsable, elle qui a remporté son pari et contribué à gonfler le nombre de sièges remportés par les libéraux dans cette province où même le chef conservateur, on le disait, Pierre Poilievre, a perdu le sien. Pour l'instant, il ne démissionne pas, espérant peut-être qu'un agneau sacrificiel va se manifester. Madame Mingarelli, qui a passé la soirée électorale dans la ville où elle a grandi à Rockland, entrepreneur technologique, ancienne membre du cabinet de l'ancien premier ministre Paul Martin et grande militante en faveur de la représentation des femmes en politique, Giovanna Mingarelli devient ainsi la première femme à être élue dans la circonscription de Prescott-Russell-Cumberland. Elle a devancé sa plus proche rivale, la conservatrice Julie Séguin, en raflant 55% des voix. 6 candidats s'étaient présentés dans cette circonscription. Voici Guillermo Tolosa à Cornwall, en Ontario.
La nouvelle candidate libérale, Giovanna Mingarelli, a été élue dans la circonscription de Prescott-Russell-Cumberland. Mingarelli devient du même coup la première femme élue au niveau fédéral dans l'histoire de la circonscription. Giovanna Mingarelli prend ainsi la relève de son collègue libéral Francis Drouin, qui était le député de la circonscription depuis 2015 et qui n'a pas voulu se représenter après 3 mandats. Francis Drouin, qui a d'ailleurs soutenu Mme Mingarelli tout au long de sa campagne et lui a apporté de la confiance.
Ça m'a donné beaucoup de confiance de poursuivre l'investiture et de me lancer comme candidate libérale ici. C'est vraiment les meilleurs mentors pour la région. Puis, oui, c'est ça. Ça m'a donné beaucoup de confiance.
Madame Mingarelli a constaté que les priorités au niveau national sont les mêmes dans Prescott-Russell-Cumberland.
En fait, il y a vraiment deux priorités au niveau national qui sont les mêmes priorités en ce moment ici à Prescott-Russell-Cumberland, puis c'est les tarifs puis l'abordabilité. Puis on va, ben moi je vais travailler avec tous les députés et le premier ministre pour faire certain que on peut aider Prescott-Russell-Cumberland avec nos priorités locales en plus, comme l'agriculture, l'industrie, francophonie, etc.
Giovanna Mingarelli a été élue avec presque 10 000 votes de plus que sa principale adversaire, la conservatrice Julie Séguin. Ce n'était pas le résultat espéré pour Mme Séguin, mais elle est tout de même très fière de sa campagne.
Je me sens fière, fière de mon équipe, fière de notre équipe, fière de nous. On a travaillé fort. On a une équipe de femmes franco-ontariennes, locales. Moi d'Hawkesbury, Karine de Castlemoon, toute notre équipe était à 99% locale. Je suis très, très fière. On est franco-fière. On est ici. On a travaillé fort et puis j'ai aucun regret.
Julie Séguin a fait les mêmes constatations que son adversaire libéral durant sa campagne. Et le coût de la vie est la principale préoccupation des gens dans la région.
Les gens de Prescott-Russell, le message était très clair. Les gens sont fatigués financièrement, les gens sont frustrés, les gens ont besoin d'aide, tout simplement comme le coût de l'épicerie. J'ai entendu des familles qui me disaient qu'ils ont de la misère à nourrir leur famille, des adultes qui ont de la misère à nourrir leur famille à chaque semaine. Les gens de Prescott-Russell sont fatigués financièrement, ont besoin d'aide. Et puis j'espère qu'ils vont l'avoir du gouvernement en place.
Malgré la défaite, Julie Séguin, qui est actuellement conseillère municipale pour la ville de Hawkesbury, assure que ce n'est que le début pour elle dans sa jeune carrière politique.
Pour la suite des choses, écoute, si c'est un gouvernement minoritaire, on ne sait pas la date d'expiration. C'est certain que ce n'est que le début pour moi. Ma carrière politique en tant que politicienne ne fait que commencer municipalement en 2022, fédéralement en 2025. Je suis une jeune politicienne, si on peut le dire ainsi. Ma carrière commence et elle n'est pas finie. Je vais revenir, je vais être là pour mon monde.
Les libéraux et leur chef, Mark Carney, ont reçu beaucoup de critiques dans la région pour avoir retiré le poste de ministre des langues officielles. Le français, qui occupe une place importante dans l'Est ontarien, ayant une grande population francophone. Giovanna Mingarelli assure qu'elle défendra la francophonie à Ottawa.
Il y a beaucoup de monde qui m'ont exprimé qu'ils veulent voir un ministre pour les langues officielles. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée aussi. Alors, je vais exprimer à M. Carney à Ottawa que c'est important pour nous ici à Prescott-Russell-Cumberland puis lui demander si c'est possible de continuer avec sa position. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de cette priorité en particulier. Puis oui, absolument, je vais l'amener à Ottawa.
6 candidats se sont présentés dans la nouvelle circonscription de Prescott-Russell-Cumberland, anciennement appelée Glengarry-Prescott-Russell. Glengarry qui est maintenant annexé à Stormont-Dundas depuis le redécoupage. La libérale Giovanna Mingarelli a été élue avec près de 55% des voix. C'était Guillermo Tolosa à Rockland pour IGL.
Près de 19 millions de Canadiens ont voté à cette élection, ce qui représente un taux de participation d'environ 68 %. Notons que plusieurs régions ont affiché des tendances inattendues, ce qui pourrait forcer le Parti libéral du Canada à négocier davantage au Parlement pour faire avancer ses projets lors de son prochain mandat. Le nouveau Parti démocratique s'en sort avec 7 sièges, le Bloc québécois 22.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
La candidate libérale Ginette Levac a remporté une victoire décisive dans la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital au Manitoba en s'imposant avec près de 59 % des voix. Levac a largement devancé ses adversaires, reléguant le candidat conservateur Chola Agboola à la deuxième place avec 32 % des voix. Le candidat néo-démocrate Thomas Lehner a obtenu 6,9 % des votes, tandis que Gilles Pelletier du Parti populaire ferme la marche avec 1 % des votes. Cette victoire confirme le fort appui des électeurs de la circonscription envers le Parti libéral, consolidant leur présence dans cette région à forte population francophone. Gaël Mpoyo.
J'ai ressenti, je continue à ressentir beaucoup d'émotions. Je suis tellement heureuse et humble face à ce mandat que la communauté m'a confié. Je pouvais pas simplement participer aux élections en tant que personne qui allait voter. Je voulais en faire plus pour essayer de renforcer notre démocratie et notre pays. Mais que c'est un travail d'équipe incroyable. J'étais appuyée par des gens qui se sont donnés vraiment à tout cœur.
Alors, quels seront vos dossiers prioritaires à Ottawa dès le début de votre mandat, Ginette?
Assurer la mise en œuvre de la nouvelle langue modernisée pour les langues officielles. Le secteur culturel artistique demeure toujours très fragile. Alors moi, je veux continuer à lutter pour ça, mais aussi le côté infrastructure de nos centres communautaires, de nos centres culturels. C'est quelque chose qu'on reconnaît, on voit à l'échelle du pays, il y a vraiment un besoin criant. T'sais, à un moment donné, on a créé ces espaces-là pour que la communauté se réunisse, puisse célébrer ensemble, puis se démarquer, mais que là, il y a un besoin vraiment très important de continuer à renforcer, puis à appuyer ces espaces-là. Il y a aussi l'aspect immigration et environnement qui me sont très chers et sur lesquels j'aimerais faire des avancées.
De son côté, le candidat néo-démocrate Thomas Lehner a reconnu sa défaite avec dignité et a félicité la gagnante.
Évidemment, c'était une élection très difficile pour mon parti, les néo-démocrates. Il y a beaucoup à y penser. J'aimerais juste féliciter Ginette et toute son équipe et remercier tous les électeurs de Saint-Boniface-Saint-Vital.
Alors, vous allez vous décourager ou vous allez poursuivre la lutte?
Moi, je vais toujours poursuivre la lutte. On ne sait pas justement de quelle façon ça va prendre dans le futur. Mais oui, il y a toujours une lutte contre la pauvreté, contre la haine, la discrimination. Il y a toujours une lutte à suivre et moi, je vais la faire. On va voir de quelle façon.
Les électeurs de Fort McMurray-Lac-Labiche se sont mobilisés en grand nombre le 28 avril. La députée conservatrice sortante Leila Goodridge a été réélue avec plus de 80 % des voix, devançant largement la candidate libérale Caitlin Staines. Bonne perdante, elle est ici au micro de Camille Danis à Plamondon, en Alberta.
Caitlin Staines, candidate libérale dans la circonscription de Fort McMurray et Lac-Labiche, réagit tout de même positivement à la victoire de son parti.
I think liberals across Canada and across Alberta are excited.
Je crois que les libéraux albertains et canadiens sont enthousiastes. Nous pourrons continuer à avancer en tant que gouvernement minoritaire, poursuivre sur notre lancée. C'était une soirée très excitante. On a encore 4 ans devant nous, précise Mme Staines.
What we've built over this campaign, and we get to build on the momentum. We have 4 more years to build on it. So that's an very exciting win.
Alors que le dépouillement se poursuivait mardi matin dans plusieurs circonscriptions de l'Alberta, les tendances étaient déjà très claires. Les députés conservateurs sortant dans Lakeland et Fort McMurray-Cold Lake conservent leur siège avec des majorités écrasantes. Dans la circonscription de Fort McMurray-Cold Lake, qui comprend les collectivités de Lac-Labiche, Cold Lake et Fort McMurray, la députée sortante conservatrice Leila Goodridge s'impose largement avec un peu plus de 80 % des voix selon les résultats disponibles mardi matin. Camille Dany pour l'IGL.
Et alors que la campagne électorale battait son plein, trois grands regroupements de radiodiffuseurs locaux et communautaires du pays ont dénoncé l'incohérence des partis politiques fédéraux quant à leur gestion de leurs achats publicitaires chez les géants du web. L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, l'Alliance des radios communautaires du Canada et l'Association des radios régionales francophones s'inquiètent du message que véhiculent les différents partis politiques qui, d'un côté de la bouche, critiquent les agissements des GAFA, mais qui agissent autrement quand il s'agit de leur propre placement publicitaire, Toby Germain à Gaspé.
Tout juste avant le lancement des élections, les principaux partis politiques canadiens ont acheté plus de 900 000 $ de publicité à Meta, qui possède entre autres les médias sociaux Facebook et Instagram. L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, l'Alliance des radios communautaires du Canada ainsi que l'Association des radios régionales francophones ont tenu à manifester leur déception et leur incompréhension face aux stratégies publicitaires des partis fédéraux. Le directeur général de l'Alliance canadienne, Louis Bellan, soutient qu'il est incongru pour les partis de lancer des campagnes d'achat local d'un côté et de dépenser dans les médias américains de l'autre.
C'est quand le message est passé de acheter local, encourager les entreprises canadiennes, quand c'est dit d'un côté comme ça, et de l'autre côté, on a des transactions significatives dans l'autre direction. C'est un peu ça qu'on essaie de dire. Faudrait que les mains suivent la bouche.
Louis Bellan rappelle aussi qu'il est ironique de soutenir des médias sociaux qui ont banni les médias traditionnels canadiens de leur plateforme. Il note qu'en parallèle, la désinformation et la propagande gagnent du terrain.
Dernièrement, il y a C18 qui est passé. Il y a des grosses entreprises américaines qui ont signé et qui contribuent au niveau du secteur de journalisme au Canada. Depuis ça, Meta en particulier n'a pas contribué, n'a fait aucun geste pour améliorer la situation des médias au Canada. Mais quand même, on a un gouvernement qui dépense de l'argent dans cette entreprise-là.
La situation est critique selon les trois associations dans une période où les ventes publicitaires des radios canadiennes sont globalement en diminution. Pour Louis Bellan, acheter de l'espace publicitaire dans ses médias de proximité, c'est bien plus que de se payer de la visibilité, c'est investir dans sa communauté.
Ce que nous, on essaie de dire, c'est de dépenser cette même argent-là dans nos médias communautaires. Parce que le message passe mieux. Quand on passe un message à travers une radio communautaire, il y a des liens qui sont créés avec la communauté. Cette information-là va avoir un impact dans cette communauté-là. C'est beaucoup plus profond comme message. Cette relation-là entre les radios communautaires et les communautés dans lesquelles elles se situent est absolument magique.
La RCQ, la RCC et la RRF rappellent que l'achat de publicité dans les médias locaux est un geste concret qui reconnaît et encourage la qualité de l'information en région tout en contribuant à l'essor des communautés qui y vivent. C'était Toby Germain à Gaspé pour une initiative de journalisme local.
Et c'est sur ce reportage de Toby Germain que se conclut cette édition de Point de vue. Merci à l'équipe en ondes et hors d'onde de l'initiative de journalisme local. Parmi eux, Alice Zanetta, Camille Dany, Elisabeth Séguin, Toby Germain, Michael Robitaille, Guillermo Tolosa, Vincent Lavoie et Gaël Mpoyo. On vous rappelle que l'émission Point de vue est présentée par le Fonds canadien de la radio communautaire. Julia Chénu, rédactrice nationale. Et avant de vous dire au revoir, on salue maintenant Gaël Mpoyo qui nous quitte pour d'autres horizons, mais toujours pour la cause de la radiophonie francophone canadienne. On en profite pour lui souhaiter bonne route, bon vent. On le remercie pour tout son bon travail et ses nombreux reportages qui nous ont fait découvrir la grande diversité de la francophonie manitobaine. Merci à sa station affiliée en vol 91 FM qui a su le repérer. À bientôt, Gaël. Et à vous, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine avec Frédéric Lévesque qui nous fera faire un long voyage sur la basse côte nord du Québec. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. Ciao.
questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.